Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Le consentement à l'impôt. Selon le dernier baromètre des prélèvements fiscaux et sociaux en France du 30 janvier 2024, les trois quarts des sondés estiment que les impôts sont trop élevés. Dans le classement de l'OCDE des pays les plus imposés en 2023, la France arrive en tête. 67% des Français estiment que leurs impôts sont mal utilisés par l'État. Enfin, l'État ne recueille que 32% d'opinions positives sur la manière dont il est fait usage de l'argent du contribuable. Alors qu'un ras-le-bol fiscal semble monter parmi les Français, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a de nouveau mis en garde les députés lors de la préparation du budget 2024 au sujet de ce phénomène. Il a par ailleurs déclaré que le consentement à l'impôt est fragile. L'expression « consentement à l'impôt » peut interroger dans la mesure où l'impôt est généralement associé dans l'imaginaire collectif à la contrainte. Pourtant, le consentement à l'impôt, consacré dans le bloc de constitutionnalité, constitue l'un des fondements de notre démocratie parlementaire et de la souveraineté des citoyens. Aujourd'hui, face à des mouvements de contestation divers, rappelant les jacqueries fiscales, ce principe tend à se fragiliser. Le sentiment d'injustice fiscale semblerait gagner du terrain. L'illustration la plus récente de ce phénomène est la révolte des agriculteurs qui ont bloqué, au cours du mois dernier, les grands axes routiers français en signe de protestation. Cette révolte a pour origine la volonté du gouvernement de supprimer l'exonération d'une taxe sur le gazole non routier. Ainsi, l'actualité peut nous interroger. Est-il réellement consenti à l'impôt ? L'impôt ne serait-il pas davantage subi par les citoyens ? Pour répondre à ces questions et mieux appréhender la notion du consentement à l'impôt, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Manon Stamm, inspectrice des finances publiques. Manon Stamm, bonjour.
Bonjour Jacob Bérémy.
Manon Stamm, le consentement à l'impôt est un sujet important pour nos élèves, nos candidats qui passent les concours, notamment le concours d'inspecteur des finances publiques. En effet, il s'agit d'une notion qui ne peut jamais être considérée comme acquise et qui fait régulièrement l'objet de débats dans la sphère publique. Avant de revenir sur ces débats, j'aimerais commencer avec une première question assez évidente. Afin de nous éclairer sur la notion de consentement à l'impôt, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est entendu au travers de cette expression ?
Très bien, Jacob Bérémy. Commençons tout d'abord par la définition de la notion du consentement à l'impôt. Classiquement, le consentement à l'impôt peut être défini comme le principe selon lequel un impôt prélevé par l'État doit avoir été accepté par les représentants de la nation. Chaque année, le Parlement vote la loi de finances qui autorise le gouvernement à lever l'impôt et à effectuer des dépenses. Dans son discours sur l'économie politique, Jean-Jacques Rousseau déclarait que les impôts ne peuvent être établis légitimement que du consentement du peuple ou de ses représentants. L'impôt étant classiquement défini comme un versement obligatoire et sans contrepartie d'une fraction des ressources d'une personne physique ou d'une personne morale afin de subvenir aux charges publiques, il convient dès lors qu'il soit consenti à celui-ci. Or, comme le constatent messieurs Victor Fouquet et Jean-Baptiste Noé, l'impôt est, comme son étymologie l'indique, imposé aux contribuables. Il n'est pas un contrat né librement d'un échange de consentement. Il serait donc contradictoire de consentir à une imposition. D'un autre côté, l'impôt peut être considéré comme une sorte de sacrifice consenti par chacun pour financer les actions de l'État. On comprend alors que c'est en raison de sa singularité que l'acquittement de l'impôt doit être consenti et non subi. Par ailleurs, l'impôt étant l'une des principales ressources de financement de l'État, sa collecte est indispensable au bon fonctionnement de ce dernier. Rappelons que l'État et les collectivités locales, c'est-à-dire les communes, les départements ou les régions, ont vocation à construire et entretenir les routes, les écoles, les hôpitaux, les monuments historiques, les musées, les parcs, les forêts, à assurer la sécurité et à rendre la justice, et à assurer tout un ensemble de services gratuits qu'ils proposent à la population. Pour réaliser toutes ces opérations et pour payer le personnel qui s'occupe de leur fonctionnement, l'État et les collectivités locales ont besoin d'argent. C'est pour cela que chaque année, le Parlement, agissant au nom du peuple français, autorise le gouvernement à lever l'impôt. C'est alors que l'on parle de consentement à l'impôt. L'impôt sert ainsi à couvrir les dépenses publiques de la société. Son rôle premier est financier.
Ah oui, effectivement, Manon Stamm, ceci on le comprend très bien. On comprend très bien cette logique première qui est financière. Quels sont les autres rôles de l'impôt ?
Les deux autres rôles que peut remplir l'impôt sont d'abord un rôle économique. L'impôt joue un rôle important dans le développement économique du pays. Les gouvernements, par l'entremise du Parlement, peuvent utiliser l'impôt pour encourager des domaines considérés comme importants pour l'avenir. À l'inverse, ils peuvent l'utiliser également pour décourager des comportements qu'ils considèrent comme nuisibles pour la société. Par exemple, si le gouvernement souhaite encourager les économies d'énergie, il fera voter par le Parlement des réductions d'impôts pour les particuliers ou pour les entreprises qui réalisent des travaux permettant d'économiser l'énergie. Par exemple, l'isolation d'une maison ou d'un local. Ces mesures encouragent les particuliers ou les entreprises à réaliser ce type de travaux. À l'inverse, il peut taxer plus fortement l'alcool ou le tabac afin d'inciter la population à diminuer sa consommation dans un souci de santé publique. Enfin, le troisième rôle de l'impôt est un rôle de redistribution du revenu par l'État, en vertu duquel ce dernier prend aux plus riches pour redonner aux plus pauvres, essentiellement par la fiscalité directe. Chacun contribue aux dépenses générales en fonction de ses moyens. Payer ses impôts constitue donc un acte citoyen. Pour finir, l'argent nécessaire au budget de l'État provient pour l'essentiel de ses recettes fiscales prélevées à la fois sur les citoyens et les entreprises, soit plus de 90% du total de ses recettes.
Alors, une question sémantique désormais, doit-on parler de consentement à l'impôt ou de consentement de l'impôt ?
Il est vrai que l'on peut se poser la question, Jacob Bérébi. Michel Bouvier, professeur de finances publiques, distingue le consentement à l'impôt du consentement de l'impôt. Le consentement à l'impôt correspond à une acceptation de principes de l'impôt de nature avant tout sociologique. Le consentement relève des origines les plus lointaines de l'impôt. Ainsi, c'est en occupant une fonction structurante des rapports sociaux que la fiscalité, de gré ou de force, a pu progressivement se faire admettre. Le consentement à l'impôt renvoie alors au civisme fiscal. Le civisme fiscal peut être entendu comme l'accomplissement volontaire des obligations fiscales, déclaratives et de paiement par les contribuables. Il s'agit alors d'une valeur universelle largement partagée par tous les peuples organisés.
Ceci, c'était le consentement à l'impôt et c'est effectivement très clair. Lorsque l'on évoque le consentement de l'impôt, cette fois-ci, que vise-t-on, Manon Stam ?
Le consentement de l'impôt, quant à lui, suppose, selon le professeur Bouvier, que je cite, le citoyen conscient au travers du consentement de l'impôt exprimé par ses représentants, c'est bien son propre consentement qui s'exprime. Le consentement de l'impôt renvoie ainsi au principe de la légalité fiscale, c'est-à-dire la règle selon laquelle aucun impôt ou aucune taxe ne peut être opposé à une personne sans que cet impôt ou cette taxe ait été prévu par la loi, c'est-à-dire par un acte adopté par le pouvoir législatif. Il s'agit dès lors de la conception plus moderne du consentement à l'impôt. Si cette distinction est intéressante, elle reste très subtile. Dans ce podcast, nous resterons sur l'expression de consentement à l'impôt, qui est l'expression la plus généralement empruntée.
Alors, quels sont les fondements historiques et politiques, du coup, de ce consentement à l'impôt, notion que l'on va retenir effectivement pour la suite du podcast ?
Comme je viens de l'évoquer, le consentement à l'impôt fait référence à l'acceptation individuelle de l'impôt. Soyons honnêtes, le civisme fiscal est le fruit d'un long processus sociologique. C'est en constituant la pierre angulaire de la démocratie que la fiscalité a pu progressivement se faire admettre. Partons, si vous le voulez bien, du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les impôts locaux étaient dus principalement aux seigneurs en échange d'une protection. L'impôt pouvait parfois être collecté au niveau national afin de financer la guerre. Sous l'Ancien Régime, avant la Révolution de 1789, le roi et l'Église sont les bénéficiaires des principaux impôts. Pour le roi, les impôts sont la taille et la gabelle. La taille royale a été créée pour financer une armée permanente. Les nobles et le clergé ne la payaient pas et son mode de calcul était différent suivant les provinces. La taille était calculée en fonction des revenus présumés par paroisse. Tous les habitants d'une paroisse étaient solidaires vis-à-vis du paiement de la taille. La part de ceux qui ne pouvaient pas payer devait l'être par les autres habitants. La gabelle, quant à elle, était un impôt sur la production industrielle ou agricole. Il existait de nombreuses gabelles, gabelle des vins, gabelle des draps, etc. Mais la plus célèbre était la gabelle du sel. Faisons appel à nos cours d'histoire et rappelons que le sel était à cette époque le seul moyen de conserver la nourriture, poisson et viande séchée par exemple, et était aussi nécessaire à la nourriture de bétail. La gabelle du sel deviendra l'un des impôts de l'Ancien Régime le plus impopulaire. Pour l'Église, l'impôt était la dîme. La dîme était destinée à l'entretien des paroisses et de leurs clergés. Elle correspondait à une certaine part de la récolte. Plus précisément, il existait plusieurs types de dîmes. La dîme grosse sur les gros grains, froment et seigle, et la dîme verte sur le lin, le chanvre, les fruits et les légumes, etc.
Alors, c'est très intéressant, Manon Stam. Je crois savoir, mais je parle sous votre contrôle, que sous l'Ancien Régime, il y avait également un impôt moins connu, un impôt pour les villes. C'est exact ?
C'est exact, Jacob Beribi. Pour les villes, l'impôt était l'octroi. L'octroi était perçu sur les marchandises qui entraient dans les villes. Il devait être affecté à des dépenses précises telles que la construction des fortifications ou des travaux d'utilité publique destinés aux seuls habitants de la ville. Cette taxe frappait les marchandises les plus importantes et les plus rentables telles que le vin, l'huile, le sucre, le café et autres aliments.
Alors, Manon Stam, vous avez commencé à répondre à ma prochaine question lorsque vous avez évoqué la gabelle du sel et son impopularité. Que pensait la population de ces impôts, donc des impôts pour le roi, pour l'église, pour les villes ?
Ces impôts très inégalitaires variaient suivant les provinces, les villes, les paroisses et avaient laissé dans la population un fort sentiment d'injustice et d'iniquité. Ainsi, la levée de l'impôt a été une conquête pour l'État et non un droit inhérent. Le royaume de France a fait sur ce point l'admiration des autres pays. Le roi de France semblait pouvoir lever l'impôt à sa guise et puiser dans la poche toujours ouverte pour lui de ses sujets. Néanmoins, l'impôt restait un objet de contestation, voire de révolte, armée contre le fisc royal et ses agents. Si la première application du principe de consentement à l'impôt remonte en France au règne de Philippe IV le Bel, à l'occasion de la 5e convocation des États généraux, il faut situer sa première manifestation juridique en Angleterre, au début du XIIIe siècle. Plus tard, le principe du consentement à l'impôt sera l'origine des révolutions anglaises, états-uniennes et françaises. Une des raisons qui mènent les barons à se révolter en 1215 en Angleterre contre le roi fut son usage excessif et arbitraire des droits féodaux et dont la levée de nouvelles taxes. On retrouvera donc une limitation de ce pouvoir royal dans la Magna Carta. La clause 14 détaille la procédure légale pour lever un nouvel impôt, la convocation des ecclésiastiques et des nobles en conseil. Ce conseil, non élu, préfigure les parlements des démocraties modernes de par le pouvoir de consentir à l'impôt qui lui est conféré. En Angleterre, il deviendra l'Assemblée parlementaire rassemblée en 1295 par Édouard Ier d'Angleterre et composée de membres du clergé, de l'aristocratie et des représentants des comtés traditionnels. Un système similaire de consultation obligatoire de la noblesse et du clergé en matière d'impôts se mettra en place en France en 1314, sous le règne de Philippe IV le Bel, à l'occasion d'une convocation des États généraux, et ce pour financer la guerre des Flandres. Le principe du consentement à l'impôt sera très inégalitairement respecté par les monarques anglais et français. Le combat autour de ce principe conduiront finalement à des troubles révolutionnaires dans plusieurs pays européens.
Alors justement, on en vient à ma prochaine question. Que se passe-t-il à la Révolution française, Manon Stam ?
La Révolution de 1789 supprime les impôts de l'Ancien Régime et crée ce qu'on appelle les quatre vieilles. La contribution foncière, elle est payée par les propriétaires sur la valeur locative de leurs biens, terrains, maisons. La valeur locative d'un bien est la somme des loyers que pourrait percevoir un propriétaire sur un an, si le bien était mis en location. La contribution personnelle mobilière, elle est calculée sur le revenu présumé de la personne. Ce revenu est évalué approximativement d'après la valeur du loyer de son habitation. La contribution des patentes, au début, elle est calculée sur les loyers des locaux commerciaux et industriels, mais sera profondément modifiée par la suite. Et enfin, l'impôt sur des portes et fenêtres, calculé sur le nombre de portes et de fenêtres. Les portes et les fenêtres étaient considérées comme des signes de richesse. Les penseurs des Lumières ont fait de l'impôt un instrument pour financer les services de l'État. Ainsi, le consentement à l'impôt constituait l'une des manifestations de l'adhésion des citoyens à un projet collectif. En effet, l'acceptation de l'impôt par ceux qui y sont soumis repose sur une légitimité d'ordre politique. Ainsi, il devrait exister une sorte de contrat social entre le peuple et le souverain. Il s'agit alors d'une conception de l'acceptation de l'impôt réfléchie et fondée en raison. Les juristes Louis Trotabas et Jean-Marie Cotteret expliquent que l'histoire enseigne que nos institutions sont fondées sur le consentement de l'impôt, c'est-à-dire sur l'intervention pratiquement nécessaire du Parlement représentant les contribuables pour établir l'impôt. L'impôt ne peut donc être contesté car il a été voté par les représentants du peuple, eux-mêmes élus par le peuple. C'est ainsi que l'impôt acquiert une légitimité politique incontestable. Plus tard, l'impôt a eu également pour fonction de redistribuer une partie des richesses produites afin de financer l'État-providence.
Alors merci Manon Stam pour ce retour historique. On voit la co-substantialité entre notre système politique et le consentement à l'impôt. Et nous comprenons que nos institutions modernes sont effectivement fondées sur ce consentement à l'impôt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce principe est aujourd'hui consacré dans notre droit positif ?
Tout à fait. Le consentement à l'impôt en matière fiscale est considéré comme l'un des fondements de notre démocratie. Pour André Barilari, administrateur civil et inspecteur général des finances honoraires, il existe un lien étroit entre le degré de consentement à l'impôt et le degré de démocratie. En effet, la recherche du consentement à l'impôt a engendré la démocratie parlementaire et la souveraineté des citoyens. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, le consentement à l'impôt a influencé les États généraux en France. Nous le savons, les États généraux ont une portée décisive dans l'évolution des institutions politiques. Le principe de l'égalité fiscale se fonde sur le principe du consentement à l'impôt, initialement consacré dans un décret du 13 juin 1789. Ce décret dispose que désormais, toutes les contributions existantes sont illégales et nulles parce qu'elles n'ont pas été consenties. Dorénavant, aucune levée de l'impôt ne pourra s'effectuer si elle n'a pas été préalablement décidée par l'Assemblée représentative des citoyens. Plus tard, ce même texte sera repris par l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789. Celui-ci affirme que tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Cet article de la DDHC a été consacré par la Constitution du 4 octobre 1958. La Constitution prévoit également un certain nombre de dispositions relatives à la prise de décision en matière fiscale. Ainsi, l'article 34 de la Constitution dispose que la loi est votée par le Parlement. Celui-ci fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. De la même manière, l'article 1er de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances réaffirme la compétence du Parlement en matière fiscale. Enfin, le Conseil constitutionnel a rappelé à de nombreuses reprises l'intangibilité du principe de l'égalité fiscale. Il a même affirmé le droit du Parlement à légiférer dans les matières relevant du domaine réglementaire. Un partage du pouvoir du Parlement avec d'autres représentants élus des citoyens en matière fiscale est tout de même prévu par la Constitution. En effet, sur le fondement du principe de libre administration, les collectivités territoriales disposent d'un pouvoir fiscal dérivé.
On rentre dans un domaine qui est moins connu. Que signifie cette notion de pouvoir fiscal dérivé, Madame Stam ?
L'expression « pouvoir fiscal dérivé » signifie que les collectivités territoriales peuvent lever des impôts ou des taxes facultatifs et fixer les taux d'imposition des quatre grands impôts directs locaux. Petit rappel pour nos auditeurs, les quatre grands impôts directs locaux sont la taxe d'habitation, les deux taxes foncières, c'est-à-dire les propriétés bâties et non bâties, et la cotisation foncière des entreprises. J'en profite également pour rappeler que la loi de finances pour 2020 a décidé de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Cette suppression a été amorcée par la loi de finances pour 2018 et s'est étalée progressivement jusqu'en 2023. Toutefois, revenons-en aux collectivités territoriales. Elles ne peuvent pas créer, modifier ou supprimer un impôt. Même si depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2023, la loi peut autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. Nous venons de voir que le consentement à l'impôt est gravé dans le bloc de constitutionnalité.
Alors, toutefois, j'imagine qu'il existe des limites au principe du consentement à l'impôt.
C'est exact, Jacob Beribi. Si le principe du consentement à l'impôt est consacré dans le bloc de constitutionnalité, comme tout principe, il connaît des limites. La première limite au principe de consentement à l'impôt vient du constat d'un déclin du pouvoir législatif. En effet, le pouvoir parlementaire rencontre des limites en raison notamment de la montée en puissance du pouvoir exécutif. Comme nos auditeurs l'ont certainement appris dans leur cours de droit public, le rôle du parlementaire dans la construction de la loi, notamment de la loi de finances, est de plus en plus restreint. Rappelons-nous que dans son discours d'Épinal en 1995, Jacques Chirac avait dit que le Parlement s'est transformé en chambre d'enregistrement, légiférant à partir de textes d'origine gouvernementale sans véritable marge de manœuvre. Depuis lors, il est souvent affirmé que les parlementaires sont là uniquement pour valider de manière quasi obligatoire la politique du gouvernement. Ainsi, la crise de la démocratie parlementaire serait l'une des limites au principe du consentement à l'impôt. En matière fiscale, à titre d'illustration, nous pouvons citer aussi ce qu'on appelle les services votés. Il s'agit des dépenses reconduites automatiquement d'une année sur l'autre. Elles représentent environ 90% des dépenses du budget général de l'État. De la même manière, le Parlement se trouve de plus en plus contraint par le droit de l'Union européenne et par les normes internationales. Le consentement à l'impôt peut se trouver atténué également lors de l'interprétation des dispositions fiscales par les juges et les administrations publiques. En effet, le législateur peut avoir tendance à légiférer de manière générale, ce qui oblige l'administration à interpréter les dispositions fiscales dans des instructions ou des circulaires. Par ailleurs, la loi fiscale est une matière très technique qui nécessite souvent une interprétation par l'administration fiscale ou le juge. Dans le cadre du contrôle de légalité, il y a également un risque de voir le juge déformer l'intention du législateur. Si l'on pense à l'actualité la plus récente, notamment à la révolte des agriculteurs,
et plus généralement, on peut voir que cette révolte des agriculteurs a posé une question générale. On la retrouve au travers du débat et des équivoques que l'on a pu citer en introduction. C'est la question de savoir si le consentement à l'impôt ne se serait pas transformé en contrainte fiscale.
Il est vrai, Jacob Bérébi, pour reprendre votre matière de prédilection, que dans le droit des contrats, les articles 1228 et 1229 du Code civil dispose que pour être valable, le consentement libre et éclairé de la personne doit être donné. On constate donc qu'au sens du droit civil, il n'existe pas de véritable contrat entre le contribuable et l'État français. L'impôt n'est donc pas un contrat né librement d'un échange de consentement. L'acceptation de l'impôt ne peut jamais être considérée comme acquise. En effet, il ressort de la grande consultation « En avoir pour mes impôts » lancée par le gouvernement en avril 2023 que 64% des personnes ayant répondu estiment payer trop d'impôts. Cela serait dû au fait que la manière de percevoir le consentement à l'impôt a changé. En effet, le professeur Michel Bouvier constate que l'impôt tend à apparaître de plus en plus comme le prix d'un service rendu par l'institution qui en bénéficie, plutôt comme l'expression d'un lien de solidarité, voire d'un devoir social. Aujourd'hui, le paiement de l'impôt serait perçu par les contribuables comme une obligation de payer sans que directement une contrepartie soit perçue consécutivement à ce paiement. Or, pour qu'il y ait véritablement consentement, il faut que l'impôt soit volontairement payé par le contribuable.
De nos jours, vous en conviendrez, Manonsta, mais encore une fois, les chiffres le montrent, le contribuable semble faire davantage attention à l'usage qui est fait de son argent. Le contribuable est regardant.
C'est vrai, le contribuable se considère davantage comme un client que comme un usager. Une étude réalisée par Ipsos en 2020 rapporte que pour 74% d'entre elles, les personnes qui se sont exprimées estiment qu'elles contribuent davantage qu'elles ne bénéficient du système. Ce changement de paradigme alimente ce sentiment des Français de payer beaucoup d'impôts pour finalement ne pas en avoir les bénéfices. En effet, le fonctionnement des services publics, tels que l'école, les hôpitaux ou la justice, fait souvent l'objet de critiques dans le débat public. Le dysfonctionnement de ces services est une cause supplémentaire du sentiment de contrainte fiscale. Par ailleurs, il ressort du baromètre sur les prélèvements obligatoires en France que 66% des Français jugent ainsi que les ménages bénéficiant de revenus intermédiaires payent trop d'impôts, quand 48% en disent de même pour les ménages les plus modestes et seuls 21% pour les plus aisés. Au total, 55% des Français jugent la redistribution des richesses insuffisante. L'appréciation négative du niveau des impôts et des cotisations sociales s'accompagne d'un jugement critique sur le système fiscal et social lui-même considéré comme inéquitable.
Finalement, Manon Stam, excusez-moi, je vous interromps peut-être, on en arrive à une question essentielle. L'égalité par l'impôt est-elle possible ou est-elle illusoire ?
Il est vrai que si l'impôt perd de sa légitimité, alors dans le même temps et naturellement, le sentiment d'injustice fiscale va prospérer, voire s'accentuer. Ouais. Il ressort du baromètre des prélèvements obligatoires en France que, en définitive, le système fiscal est jugé peu équitable par les Français. Surtout, il apparaît comme préjudiciable aux classes moyennes et, dans une moindre mesure, aux catégories les plus modestes. Gardons à l'esprit que la France s'inscrit dans une longue tradition de ce qu'on appelle les jacqueries fiscales, c'est-à-dire des soulèvements des parties de population contre des réformes fiscales décidées par les autorités publiques et considérées comme injustes. Nous pouvons penser à la Grande Jacquerie de 1358, au Bonnet Rouge de 1675, aux Chemises Vertes en 1930. Pour reprendre un exemple plus récent, le mouvement dit des bonnets rouges est un mouvement de protestation apparu en Bretagne en octobre 2013, en réaction à une taxe sur les poids lourds. Cette mobilisation massive pour l'emploi et contre l'écotaxe en Bretagne a déstabilisé le gouvernement. Les manifestants ont arboré un bonnet rouge en référence à une révolte antifiscale du XVIIe siècle. L'écotaxe sera finalement suspendue en 2014 et supprimée par l'Assemblée nationale en 2016. Le mouvement des Gilets jaunes, quant à lui, trouve son origine dans les appels à manifester contre l'augmentation du prix des carburants automobiles consécutivement à la hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Alors que cette taxe traduisait une volonté de faire évoluer les comportements face au réchauffement climatique et aux problèmes environnementaux, elle paraissait être une bonne solution pour amorcer un changement de comportement face à ces questions. En réalité, de nombreuses contestations ont émergé, ce qui a conduit à des demandes pour davantage de justice en matière fiscale et pour une demande plus représentative dans son ensemble. L'impôt sur le revenu peut être aussi lui perçu comme un impôt injuste. Cela peut interpeller dans la mesure où l'impôt sur le revenu étant progressif, il est traditionnellement considéré comme étant le plus juste. En effet, son taux augmente avec le revenu imposable. Le calcul de l'impôt s'effectue en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable et du barème progressif fixé par des tranches de revenus. Néanmoins, la majorité des foyers ne disposent pas de revenus suffisants pour atteindre la première tranche affectée d'un taux non nul. En France, seuls 44% des foyers payent l'impôt sur le revenu. À l'inverse, 56% des foyers ne payent pas d'impôt sur le revenu.
Justement, on touche là au cœur du problème. On a parlé d'égalité fiscale, vous avez évoqué la notion d'un impôt juste. Or, le plus souvent, le système fiscal actuel est jugé peu équitable par les Français.
C'est vrai, il apparaît préjudiciable notamment aux classes moyennes et dans une moindre mesure aux catégories les plus modestes. Aussi, l'impôt sur le revenu suscite des critiques récurrentes portant notamment sur sa complexité, son caractère insuffisamment ou excessivement redistributif. De même, il ressort des sondages que la redistribution des richesses par le système socio-fiscal est insuffisante pour 55% des personnes qui se sont exprimées. Autre illustration, la loi de finances pour 2018 a supprimé l'impôt sur la fortune, ou plus exactement l'a transformé en un impôt sur le patrimoine immobilier, IFI, et a mis en place une flat tax, c'est-à-dire un prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus du capital. Si cette suppression avait pour but d'inciter les foyers français les plus riches à investir dans l'économie, elle a été perçue par une grande partie de la population comme étant un cadeau fiscal destiné aux plus riches. Cette réforme a été très critiquée et a pu accentuer le sentiment d'injustice fiscale dans les classes moyennes. Enfin, la TVA est souvent considérée comme un impôt injuste car supportée de la même manière par tous les consommateurs, quel que soit leur revenu. Or, la part du revenu consommé est plus importante pour les ménages les plus modestes. En effet, la TVA est un impôt direct proportionnel calculé sur le prix de vente hors taxe de tous les biens et services. La TVA est un impôt indirect supporté par les consommateurs, mais versé à l'État par les entreprises, déduction faite de la TVA qu'elles ont payée en amont lors de l'achat des produits ou des matières premières nécessaires à leur production. Il en est de même pour les droits d'accise sur les énergies, le tabac ou l'alcool qui sont des impôts indirects.
Alors, Ballonstam, si vous le voulez bien, on va poursuivre, hein. Au travers des questions que l'on pose et qui font le cœur de notre sujet, la polémique, je dirais, je vais à nouveau me faire le porte-parole du citoyen moyen, bien que la pensée soit naïve. Est-ce que l'on peut, aujourd'hui, raisonnablement considérer qu'on en a pour ses impôts ? Ce que je veux dire, reçoit-on assez de l'État par rapport à ce que l'on paye ?
Alors que 67% des Français estiment que l'argent des impôts est mal utilisé par les pouvoirs publics, notre Premier ministre Gabriel Attal, alors ministre des Comptes publics, a lancé la campagne de transparence « En avoir pour mes impôts » en avril dernier. L'objectif de cette campagne est de montrer aux Français comment est utilisé l'argent du contribuable et combien coûtent les actes et services publics du quotidien. Il s'agit là d'une façon de convaincre les classes moyennes qu'elles en ont pour leur argent. En ligne sur le site dédié « En avoir pour mes impôts », les contribuables peuvent découvrir le coût des services. Ils citent par exemple le coût d'une année d'études universitaires qui est de 11 580 euros, financé à 66% par l'État, 9% par les collectivités territoriales, 4% par d'autres administrations publiques, 12% par les entreprises et seulement 9% par les ménages. Le coût moyen d'un passage aux urgences qui s'élève à 227 euros, montant pris en charge à 80% par l'assurance maladie. Ou encore l'entretien d'un kilomètre de route nationale non concédée qui coûte 110 000 euros. Encore le coût d'un passeport qui est de 13,55 euros. Une autre rubrique intitulée « Les impôts à la loupe » explique comment l'argent public est utilisé. En 2019, sur 1 000 euros d'argent public, plus de la moitié a été dépensée pour la protection sociale. D'où vient l'argent public? Que sont les impôts? Qui les paye et quand? Et le système de redistribution?
Alors, tout ça est très clair et on voit effectivement les termes des questionnements que l'on peut légitimement se poser. On voit aussi donc au travers de cette transparence, eh bien, il y a des tentatives du gouvernement de répondre aux légitimes interrogations des contribuables et plus largement du peuple français. Il y a clairement une insatisfaction. Du coup, on peut se poser la question, Manostam, de comment refonder le consentement à l'impôt au vu de ces polémiques et débats.
En effet, Jacob Bérébi, un facteur de blocage du consentement à l'impôt peut être la méconnaissance ou la mauvaise compréhension du système fiscal. Ainsi, une campagne telle que celle de l'entreprise par le gouvernement en avril 2023 intitulée « En avoir pour mes impôts » peut être un moyen d'améliorer l'adhésion au système fiscal par la pédagogie. Il est vrai qu'un contribuable qui ne connaît pas ou qui connaît peu le système fiscal a plus de chances d'être critique à l'égard de l'impôt. Il en va de même de l'utilisation de l'argent public issu des prélèvements et la manière dont les citoyens l'appréhendent est déterminante pour l'acceptation de l'impôt. Cette campagne de transparence paraît être un excellent moyen de refonder le consentement à l'impôt. Selon une note du Conseil des prélèvements obligatoires qui est un organe de la Cour des comptes, et au cours des dernières années, plusieurs pays ont recours à l'utilisation de coups de pouce pour inciter les contribuables à s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. Par exemple, l'administration fiscale australienne a mis en place une procédure de dialogue avec les contribuables réfractaires avant de passer à des sanctions dont le coût s'élève graduellement. En Belgique, une expérience menée a montré que la simplification de l'administration fiscale ainsi que le rappel des peines ou amendes encourues en cas de non-paiement de l'impôt ont eu un effet positif sur le civisme fiscal. En revanche, l'expérience montre que les messages faisant appel à la morale du contribuable n'ont que peu d'effet sur le recouvrement.
Certes, et on peut le comprendre. De son côté, je crois savoir, mais à nouveau je parle sous votre contrôle, Manon Stam, la Direction Générale des Finances Publiques, la DGFiP, pour les initiés, a mis en place une dynamique de transformation autour de plusieurs réformes et projets d'ampleur. Quels sont-ils?
Oui, c'est vrai, afin de mieux accompagner les usagers dans leurs démarches et leurs obligations fiscales, on pense alors au prélèvement à la source, à la déclaration automatique des revenus, mais aussi à de nouveaux services en ligne innovants comme gérer mes biens immobiliers, GMBI, ou à la déclaration de dons en ligne. Ces nouveaux dispositifs ont ainsi largement contribué à ce que l'impôt s'adapte à notre vie, pour reprendre le slogan de la DGFiP. Les finances publiques ont ainsi lancé une campagne publicitaire déclinée tout au long de l'année pour inviter chaque contribuable à prendre l'habitude de signaler spontanément un changement de situation au moment où il intervient et ainsi obtenir dans le même temps le taux de prélèvement mensuel le plus juste. Nos auditeurs ont peut-être déjà vu passer à la télé ou dans les rues des publicités de l'administration fiscale invitant les contribuables à signaler un changement de situation sur le ton de l'humour. Maintenant que vos 538 amis ont liké vos photos de mariage, vous pouvez aussi nous le dire. Ou encore, maintenant que vous avez crié sur tous les toits « Je suis papa », vous pouvez nous le dire aussi. Et oui, qui a dit que les agents de la DGFiP n'avaient pas d'humour? Ainsi, l'administration fiscale, alors qu'elle était traditionnellement une administration de contrôle et en ayant fusionné la Direction Générale des Impôts et la Direction Générale de la Comptabilité Publique en 2008, tend à se présenter et à se structurer davantage comme une administration de service.
Est-ce que c'est une réalité? Pour quelles conséquences? Quel est l'impact de cette nouvelle politique?
La Direction Générale des Finances Publiques devient un nouvel acteur du consentement à l'impôt. De cette manière, l'administration fiscale participe à l'amélioration de l'acceptation de l'impôt. Le civisme fiscal prend une dimension plus administrative et gestionnaire que politique. Cela se traduit notamment par la recherche d'une meilleure qualité des services rendus aux usagers et de la gestion de la dépense publique. À titre d'illustration, en 2019, le ministre de l'Action et des Comptes Publics a lancé une dynamique profonde de rénovation du réseau de la DGFiP. Celle-ci a fait l'objet d'une large concertation dans les territoires. Ainsi, un nouveau réseau de proximité, NRP, des finances publiques a été construit. L'objectif principal de la mise en place d'un tel réseau est triple. Dans un premier temps, il s'agit d'augmenter le nombre de communes dans lesquelles la DGFiP apportera un service de proximité aux usagers, notamment dans des espaces ou des maisons France Service. Ainsi, en 2018, près de 13 millions d'usagers ont été reçus au guichet de la DGFiP et 23 millions sont entrés en contact avec ces services par un courriel ou un téléphone. Et mieux répondre à ce besoin de proximité qui reste fort, notamment dans les territoires où le sentiment d'abandon de l'État se développe. Dans un second temps, le NRP permet de répondre de façon plus satisfaisante aux besoins des élus locaux. Ainsi, près de 1200 cadres ont été affectés à cette nouvelle mission de conseiller aux décideurs locaux. Enfin, cela a permis d'opérer à la fois un rééquilibrage dans la localisation des services et des transferts vers les grandes métropoles, vers les territoires. On peut également penser aux fiscobus qui sillonnent les territoires afin d'assurer un service de proximité des usagers. De la même manière, depuis le 1er juillet 2020, les contribuables peuvent payer leurs impôts dans la limite de 300 euros et les amendes en espèces et en carte bancaire dans des bureaux de tabac. Ainsi, tout en poursuivant la dématérialisation des moyens de paiement pour simplifier la vie des usagers, la DGFiP souhaite redéployer le temps des agents pour le consacrer à des missions d'accompagnement des usagers. Un autre moyen de refonder le consentement à l'impôt est la promotion de la confiance mutuelle entre les contribuables et l'administration. L'accomplissement volontaire par les citoyens de leurs obligations fiscales apparaît comme un moyen de refonder le consentement à l'impôt. Nous pouvons revenir sur la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu en 2019, qui a été également perçu comme un moyen de redonner un sens au principe du consentement à l'impôt. Le prélèvement à la source consiste à déduire de l'impôt avant le versement du revenu. Le montant de l'impôt est prélevé chaque mois sur le bulletin de paie. Ainsi, le paiement est étalé sur 12 mois et le décalage d'un an supprimé. De plus, l'impôt s'adapte automatiquement au montant des revenus perçus. En France, près de la moitié des prélèvements obligatoires, principalement les cotisations sociales et la contribution sociale généralisée, CSG, étaient déjà prélevés à la source. Depuis le 1er janvier 2019, l'IR est prélevé à la source pour la plupart des revenus. Le prélèvement à la source constitue dès lors un mode de recouvrement relativement simple et indolore pour le contribuable, favorisant l'acceptabilité de l'impôt. D'ailleurs, 77% des Français jugent que le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est une bonne réforme.
Malon Stable, je vais me permettre de donner mon avis à double titre. D'abord, j'ai moi-même pu visiter et avoir l'utilité d'un fiscobus. J'y ai reçu des informations absolument pertinentes sur ma situation personnelle. Je conseille donc. Deuxièmement, je suis dans les 77% des Français qui jugent que le prélèvement à la source de l'IR est une excellente réforme. C'est déjà un soulagement psychologique. Moi qui ai connu la période antérieure à 2019 et la période postérieure, je peux vous assurer que la simplicité du modèle réconcilie largement d'un point de vue psychologique et administratif avec l'administration fiscale. Du coup, effectivement, je pense, et vous avez raison de le dire, que le consentement à l'impôt se fait de manière plus facile et plus aisée, c'est certain. Une autre illustration, Manon Stam, de l'amélioration du consentement à l'impôt est la loi pour un État au service d'une société de confiance, dite ESSOC, promulguée le 10 août 2018. Et qui vise à créer une nouvelle relation de confiance entre les Français et leur administration. On en a déjà un peu parlé. Mais surtout, la loi ESSOC a introduit dans le droit fiscal une notion tout à fait originale, la notion de droit à l'erreur. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, donc un usager qui se trompe dans ses déclarations à l'administration n'encourt pas de sanctions lors de la première erreur si elle est commise de bonne foi. C'est à l'administration de démontrer la mauvaise foi de l'usager. Parmi les actions concrètes figure notamment le signalement aux particuliers et aux entreprises des principaux risques d'erreur via le site oups.gouv.fr, l'information des usagers de leur capacité à bénéficier du droit à l'erreur ou encore la mise en place de guichets de signalement des erreurs dans chaque administration. En matière fiscale, les intérêts de retard sont réduits de 30% si une erreur de bonne foi est détectée lors d'un contrôle. Et de 50% si l'usager rectifie son erreur de lui-même. Il s'agit d'un moyen de promouvoir le consentement à l'impôt en favorisant l'accomplissement volontaire par les contribuables de leurs obligations fiscales. Cela permet également d'isoler les fraudeurs. De la même manière, la mise en place de la loi Essoc a bénéficié d'un dispositif d'accompagnement renforcé qui a permis une appropriation des mesures législatives et le développement des mesures favorisant l'acceptation du contrôle fiscal. La loi Essoc a également institué une garantie fiscale. La garantie fiscale s'applique aux contrôles fiscaux engagés à partir du 1er janvier 2019. Elle permet de renforcer la sécurité juridique des contribuables en apportant une prise de position de l'administration sur tous les points examinés lors du contrôle fiscal, y compris en l'absence de rectification. Ainsi, la garantie fiscale participe de la volonté de rendre le contrôle fiscal plus transparent et d'en faire un vecteur de sécurité juridique pour le contribuable. Plus précisément, elle permet au contribuable de se prévaloir pour l'avenir des positions prises par l'administration à l'issue d'un contrôle fiscal externe, y compris sur les points de contrôle n'ayant pas donné lieu à rectification. C'est un facteur de sécurité juridique supplémentaire pour le contribuable en cas de contrôle ultérieur, dans la mesure où il vient de limiter le droit de reprise de l'administration sur les points examinés lors d'un contrôle fiscal externe antérieur. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette notion à l'occasion d'un contrôle fiscal ou de la constatation d'un manquement, l'administration peut rectifier les erreurs ou omissions d'imposition. Il s'agit du droit de reprise. D'après ce que...
Manon Stam, pardonnez-moi, je vous interromps de nouveau. On arrive au terme de ce podcast, et même si c'est extrêmement intéressant, j'aimerais qu'on revienne sur une notion que vous avez déjà évoquée, au vu de tout ce qui a été mis en place, et selon votre expertise. Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau civisme fiscal en France aujourd'hui ?
Le civisme fiscal renvoie à une conception autre que celle qui prévalait jusqu'alors. La réduction des deniers publics ainsi que la modernisation de l'action de l'État ont fini par modifier la conception du consentement à l'impôt. Aujourd'hui, il ne s'entend plus simplement de façon politique. Il est vrai que le civisme fiscal peut aujourd'hui se définir comme l'accomplissement volontaire des obligations fiscales déclaratives et de paiement par le contribuable. En d'autres termes, si le civisme fiscal, comme on l'entend de manière traditionnelle, suppose la confiance du contribuable dans le processus politique, le nouveau civisme fiscal suggère une relation de confiance mutuelle entre les contribuables et l'administration fiscale. Comme nous l'avons vu, cette nouvelle conception du civisme fiscal irrigue l'ensemble des réformes récentes de l'administration fiscale. Le contribuable est placé au cœur du processus. L'exemple le plus récent est la mise en place d'un nouveau service en ligne pour les usagers propriétaires. Le service Gérer mes biens immobiliers permet depuis août 2021 aux propriétaires de locaux d'habitation ou professionnels de consulter le descriptif de leurs biens immobiliers à partir de leur espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr. Ce nouveau service donne la possibilité à tous les propriétaires de transmettre leurs déclarations foncières et ou de taxes d'aménagement, de suivre leurs obligations déclaratives et de répondre aux demandes de fiabilisation concernant les locaux existants. L'accomplissement volontaire des obligations fiscales par les citoyens doit rester un enjeu fondamental, et en particulier dans un pays comme la France qui se caractérise par l'importance de ses prélèvements obligatoires. Comme l'explique le professeur Michel Bouvier, on peut estimer que dorénavant, la légitimité de l'impôt repose sur un double consentement. Il ressort du baromètre des prélèvements obligatoires en France que l'acceptation de ces derniers reste particulièrement solide. Près de 8 citoyens sur 10 considèrent que le paiement des impôts est un acte citoyen, notamment parce qu'il permet de participer à la vie du pays en finançant divers services publics et aides sociales. Ce chiffre élevé traduit la force du civisme fiscal et une large acceptation au principe de consentement à l'impôt. Si l'on peut parler d'un nouveau civisme fiscal en France, c'est également grâce aux différentes réformes fiscales ayant pour effet de simplifier le paiement à l'impôt. Ainsi, pour la Cour des comptes, aujourd'hui les principaux déterminants du consentement à l'impôt sont par ordre croissant la connaissance du système socio-fiscal, la confiance dans les institutions, et le sentiment d'équité fiscale et la satisfaction quant à l'utilisation de l'argent public. En observant les effets sur la moitié de la population interrogée après qu'elle ait eu visionné une vidéo consacrée au contrôle de l'argent public, le CPO peut établir pour la première fois un lien de causalité entre la meilleure compréhension de l'utilisation des fonds publics et leur contrôle et une hausse du consentement aux prélèvements sociaux et fiscaux.
Alors Manon Stam, comme je le disais, bien que cela soit particulièrement intéressant, on arrive au terme de ce podcast. Est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot ? Je vous ai interrompu à plusieurs reprises, vous avez peut-être une conclusion ?
Pour conclure, nous pouvons quand même noter que 87,99% des personnes qui se sont exprimées dans le cadre de la campagne de transparence en avoir pour mes impôts sont d'accord avec le fait que dire que payer ses impôts est un acte citoyen nécessaire à la cohésion de la société. Ainsi, le consentement à l'impôt semble être gravé non seulement dans le bloc de constitutionnalité, mais également dans les mœurs des Français. Aujourd'hui, le consentement à l'impôt reste la clé de voûte de notre démocratie.
Alors, j'adhère complètement, Manon Stamm. Je dirais moi aussi un mot en conclusion. J'ai été élevé dans un milieu un peu modeste et j'avais l'habitude d'entendre dire que si un jour je payais mes impôts, ça voulait dire que je gagnais suffisamment d'argent pour le faire et que c'était une bonne chose. C'était aussi une preuve de réussite sociale dans le milieu dans lequel je viens, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Et je dois dire qu'effectivement, en grandissant, j'ai retiré une véritable fierté au paiement de l'impôt. Et effectivement, je pense que tous nos auditeurs seront d'accord pour faire le lien, comme vous l'avez fait, entre notre système démocratique, entre les avantages et l'utilisation que l'on peut avoir et le bénéfice que l'on peut retirer du consentement à l'impôt. Ça n'empêche pas d'avoir un droit de regard hein, sur l'utilisation des deniers publics. C'est bien le rôle du citoyen. Manon Stamm, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver dans les podcasts de l'ISP.
Merci Jacob.
Au revoir à tous. Merci de votre écoute.